Passons à la prédication. Si vous le voulez bien, je vous invite à tourner dans Acte 4. Donc on est toujours dans l'île des Actes, que je trouve extrêmement chargé de points de doctrine magnifiques. C'est pour ça que je n'avance pas vite dedans, parce que je trouve que il y a beaucoup d'éléments extraordinaires dedans. Donc c'est long. Non, on n'avance pas vite, mais on avance. Donc, acte 4, on en est au verset 23, donc on va faire les versets 23 à 37. Acte 4, verset 23 à 37, que je vais lire. Acte 4, verset 23. Donc, le contexte, c'est qu'on avait emmené Pierre et Jean devant un tribunal parce qu'ils avaient prêché Jésus-Christ, donc on les avait persécutés pour ça, c'est le contexte. Après qu'on les eut relâchés, ils vinrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et eux, l'ayant entendu, élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre et la mer et toutes les choses qui y sont, et qui a dit par la bouche de David ton serviteur, pourquoi les nations sont-elles en rumeur ? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines ? Les rois de la terre se sont levés, et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ. En effet, Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël, se sont assemblés contre ton Saint-Fils Jésus, que tu as oint, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient décidé d'avance devoir être faites. Et maintenant, Seigneur, considère leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine hardiesse, en étendant ta main, afin qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des merveilles par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Or, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, et personne ne disait que rien de ce qu'il possédait fût à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. Et les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Car il n'y avait aucun indigent parmi eux, parce que tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils le mettaient aux pieds des apôtres et on le distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Ainsi, Josès, surnommé par les apôtres Barnabas, c'est-à-dire fils de consolation, lévite et originaire de Chypre, ayant un champ, le vendit, et en apporta le prix et le mit aux pieds des apôtres. Donc, le titre du message, c'est « La cohésion de la communauté chrétienne face aux épreuves ». La cohésion de la communauté chrétienne face aux épreuves. Donc ici, on a d'abord on a une épreuve qui est arrivée sur les chrétiens, c'est que les apôtres Pierre et Jean, et donc ça pourrait aussi arriver à certains d'entre nous, donc les apôtres Pierre et Jean ont été persécutés, ont été emmenés devant un tribunal, ont été persécutés pour avoir prêché l'Évangile. Et on avait vu qu'en acte 4, au verset 21, ils les renvoyèrent donc avec de grandes menaces. Donc les apôtres ont été menacés, on leur a dit, voilà, arrêtez de prêcher Jésus, sinon on va vous faire des misères. Donc c'est une épreuve qui peut tomber sur une église locale, qui pourrait très bien tomber sur nous. On pourrait très bien nous menacer de sanctions si nous n'arrêtons pas de prêcher la Bible, de prêcher Jésus-Christ. Donc nous voyons ici comment répondent-ils à ces menaces, comment la communauté chrétienne répond à ces menaces. Donc verset 23, acte 4, 23. Après qu'on les eut relâchés, ils vinrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Donc première chose, et ça c'est un petit peu un rappel, j'en avais parlé la fois dernière, mais bon, ça fait un mois. Première chose à faire, c'est qu'on ne reste pas dans son coin quand on subit ce genre de persécution. On va le dire à ses frères et sœurs de l'Église. Voilà. On va chercher d'abord du réconfort auprès des frères et sœurs, et on n'affronte pas ces épreuves tout seul. Si l'un d'entre nous, par exemple dans la rue, s'il y a la police qui nous dit « Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas prêcher là, prêcher ceci, prêcher cela », on ne va pas affronter ça tout seul, parce que c'est quand même difficile. On vient à l'Église et on partage cela. Ça pourrait très bien être, au moment des annonces, on pourrait très bien dire « Eh bien, j'étais dans la rue en évangélisation et j'ai été persécuté de telle ou telle manière. » Et ensuite, se mettre d'accord ensemble comment nous allons réagir. Voilà. Première chose, c'est qu'ils vont vers les leurs, au verset 23. Et ils disent tout ce qui leur est arrivé. On partage les afflictions. Donc, un rappel, 2 Timothée chapitre 1, on l'avait vu la dernière fois, donc on peut le rappeler, 2 Timothée chapitre 1. Donc là, le contexte, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Donc, Timothée sera aussi un leader, un pasteur. Mais ça peut s'appliquer aussi à chacun d'entre nous. 2 Timothée chapitre 1, verset 8. N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Donc voilà ce que Paul dit à Timothée et ce que Dieu nous dit à chacun d'entre nous. Souffre avec moi, partage mes souffrances pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Hébreux chapitre 10, versets 32 et 33. Hébreux chapitre 10, versets 32 et 33. Des souffrances vont arriver, des afflictions vont arriver à cause de l'Évangile. C'est une chose normale. Hébreux chapitre 10, versets 32 et 33. Or, souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat de souffrances. Donc souvenez-vous, après que vous avez été éclairé, c'est-à-dire après que vous avez entendu l'Évangile, vous avez soutenu un grand combat de souffrance, parce qu'on vous a persécuté. Verset 33, « Quand, d'un côté, vous avez été exposé publiquement à des opprobres et des persécutions, donc d'un côté, c'est-à-dire d'une part, on s'est moqué de vous, on vous a des opprobres, c'est des accusations, des fausses accusations, et la moquerie, et des persécutions, et que de l'autre, vous avez pris part aux maux, c'est-à-dire aux malheurs, vous avez pris part aux malheurs, aux afflictions de ceux qui étaient ainsi traités. » Donc il y a deux choses dans les souffrances du chrétien. Il y a ses propres souffrances à soi-même, ou les souffrances d'une église, et aussi il y a le fait de prendre part aux souffrances des autres, de partager les souffrances. Mais voilà, la vie chrétienne, c'est deux choses, souffrir soi-même pour Christ et aussi partager les souffrances de ceux qui souffrent. Donc ça peut vouloir dire beaucoup de choses, hein. Ça peut vouloir dire essayer de réconforter déjà rien qu'en ayant compassion, en écoutant, et même essayer d'aider, par exemple, si quelqu'un s'est fait expulser de chez lui, par exemple. Si un frère ou une sœur s'est fait expulser de chez lui, par exemple un jeune qui s'est fait expulser de chez ses parents, ça pourrait arriver à cause de Christ, eh bien, il serait de notre devoir d'aider ce frère ou cette sœur en l'hébergeant chez nous. Ça pourrait arriver, ça pourrait être nécessaire. C'est un exemple. Prendre part aux maux de ceux qui ont été ainsi traités. Et en deuxième partie, on verra une deuxième façon de... On verra une autre façon de prendre part aux malheurs de nos frères et sœurs. Donc, pour l'instant, les apôtres, au verset 23, ils racontent ce qui leur est arrivé. Continuons à lire au verset 24. Eux l'ayant entendu, donc l'Église ayant entendu ce récit des persécutions, élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent. Donc là, je voudrais noter d'abord que l'Église, au verset 24, élève sa voix d'un commun accord. Donc il y a cohésion dans l'Église. Les gens sont d'accord, sont d'un commun accord. L'Église n'est pas divisée. Et ça, c'est très important dans les églises locales, c'est très important d'être en accord, c'est-à-dire d'avoir le même esprit, d'avoir les mêmes pensées. Ça ne veut pas dire qu'on pense tous exactement pareil, parce qu'on ne pourra jamais tous penser exactement pareil. Il y a une blague qui dit, c'est pas dans la Bible, c'est une blague, qui dit que si vous avez trois baptistes dans une pièce, vous aurez quatre opinions différentes. Bon, mais on peut pas être d'accord sur tout, exactement tout, mais quand même, on peut être quand même d'accord sur les principaux, et on a surtout un même esprit, l'esprit de Dieu, donc on peut être d'accord sur le plus important et sur la majorité des choses. C'est quelque chose qu'il faut d'ailleurs travailler, il faut travailler à être en accord sur un maximum de choses. Il faut que l'Église soit d'un même esprit. En Philippiens chapitre 2, voilà, alors il faut que l'Église soit en cohésion, et l'Église fait front commun. Il n'y a pas, une moitié d'Église qui va dire non, on ne vous soutient pas, vous les apôtres, on ne va pas vous soutenir, on ne va pas vous aider, et une autre moitié de l'Église qui va soutenir les apôtres. Ce n'est pas correct. Il faut que toute l'Église soit derrière les apôtres et fasse front commun. Il faut tendre vers ça, il faut tendre vers ça en tant qu'Église, il faut vouloir cette unité, ce front commun. Philippiens chapitre 1, verset 27. Philippiens chapitre 1, verset 27. Donc, le contexte, là, c'est que l'apôtre Paul n'est pas présent, donc il écrit à des gens avec qui il ne l'est pas. Philippiens 1, 27. « Conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, ou que je sois absent, donc dans tous les cas, hein, soit que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entends de dire de vous que vous persistez dans un même esprit à combattre avec une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous effrayer en rien des adversaires. » Donc là, il leur dit, voilà, il faut que vous ayez cette réputation, il faut que vous ayez cette habitude de persister, c'est-à-dire de continuer dans un même esprit à combattre, bien sûr, à combattre le combat spirituel, avec une même âme, donc c'est-à-dire avec de faire front commun. Pour la foi de l'Évangile, sans vous effrayer en rien des adversaires, parce que les adversaires vont vouloir nous effrayer. Comme ici, en acte 4, ils essayent d'effrayer, ils menacent les apôtres. Mais nous, il ne faut pas que nous soyons effrayés des adversaires. Sans vous effrayer en rien des adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Parce qu'il vous a fait la grâce, à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Dieu nous a fait la grâce, c'est-à-dire il nous a fait le cadeau d'avoir cet honneur de souffrir pour lui. Non seulement on peut croire en lui pour être sauvé, mais en plus de ça, on a la grâce de partager ses souffrances. On a ce cadeau qui nous a été donné de pouvoir partager ses souffrances. Ce n'est pas une malédiction de souffrir pour Christ. Au contraire, c'est une grâce, c'est un cadeau qui nous est donné. Verset 30. Donc comment on souffre pour Christ ? Comment on souffre pour Christ ? Verset 30. En soutenant le même combat où vous m'avez vu et où vous apprenez que je suis encore. Donc Paul dit aux Philippiens de soutenir le même combat pour la foi que Paul soutient. Donc Paul prêche l'évangile, Paul est persécuté à cause de ça. Les Philippiens Dieu commande aux Philippiens et à nous par extension d'aider ce genre de personnes, de combattre avec, de soutenir ce genre de personnes. Et c'est ce qui se passe dans acte 4. C'est exactement ce qui se passe dans acte 4. Donc revenons dans acte 4. C'est exactement ce qui se passe dans acte 4. Donc il y a deux apôtres qui sont persécutés pour avoir prêché l'évangile. Eh bien, il faut soutenir le même combat. Il faut faire front commun avec eux. Donc on voit ici l'importance d'être d'un commun accord. Voilà. Alors, c'est vrai que si la moitié de l'Église croit des doctrines différentes, etc., ce sera difficile. Donc c'est pour ça que c'est très important de parler de toutes les doctrines bibliques et de bien tout exposer, tout ça, pour qu'on soit d'accord. Ensuite, donc, suite de ce verset, ils élèvent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. » Donc là, c'est intéressant, ce n'est pas une citation directe de l'Ancien Testament, mais quand même, ça peut nous faire penser à certains passages. Donc, je vous invite à tourner dans Ésaïe 51. Ésaïe 51, parce qu'ici, dans la prière, d'abord, on rappelle à Dieu qu'il est le Créateur. Alors, on n'a pas besoin de lui rappeler, parce qu'évidemment, Dieu se souvient qu'il est le Créateur, de toute évidence. Mais en fait, c'est une façon de faire appel à la puissance de Dieu. On s'adresse avec beaucoup de respect envers Dieu qui est le Créateur, et c'est une façon d'invoquer sa puissance. On lui dit, voilà, puisque tu es le Créateur, utilise ta puissance pour nous protéger. C'est ça qu'on va faire. Regardez Ésaïe 51, Ésaïe 51, verset 11. Ésaïe 51, verset 11. Les rachetés de l'Éternel retourneront et viendront à Sion avec des chants de triomphe. Une allégresse éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc ça, c'est nous quand on reviendra dans le royaume de Dieu. Enfin, quand on arrivera dans le royaume de Dieu. Verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, du fils de l'homme qui deviendra comme l'herbe? C'est Dieu qui s'adresse à nous. Il nous dit, qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, du fils de l'homme qui deviendra comme l'herbe? Pour oublier l'Éternel, ton Créateur, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et pour trembler sans cesse tout le jour devant la fureur de l'oppresseur lorsqu'il s'apprête à détruire. Où donc est-elle la fureur de l'oppresseur? Bientôt, l'homme courbé sous les fers sera mis en liberté, il ne descendra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera point. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui frappe la mer et fait mugir ses flots, de qui le nom est l'Éternel des armées. J'ai mis mes paroles dans ta bouche, et t'es couvert de l'ombre de ma main, pour rétablir les cieux et fonder la terre, pour dire à Sion, tu es mon peuple. Donc, puisque Dieu est le Créateur, et c'est ça qu'il dit au verset 13, puisque Dieu a cette puissance pour créer toutes choses, il peut très bien nous protéger, il n'y a aucun souci à se faire. Et je pense que c'est un petit peu ça, enfin, c'est à ça que ça me fait penser en acte 4. Quand il commence à prier, il commence par rappeler à Dieu, en quelque sorte, qu'il est le Créateur. C'est une façon d'appeler le reste. C'est une petite allusion, en fait, à ce genre de passage, comme par exemple Ésaïe 51. C'est une allusion à ce passage, et en fait, sous-entendu, on veut que tu nous fasses la suite, c'est-à-dire que tu nous protèges, que tu brises la fureur de l'oppresseur, etc., etc. On lui rappelle qu'il est le Créateur pour que lui accomplisse la suite, c'est-à-dire la protection envers nous. Donc c'est une bonne façon de commencer les prières. Verset 25, à acte 4, 25, on rappelle à Dieu qu'il est Créateur. Verset 25, et qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi les nations sont-elles en rumeur et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ. Donc là, c'est une citation du psaume 2. Donc on voit que les apôtres, hein, quand ils prêchent, quand ils parlent, ils citent les Écritures. C'est une constante, on cite les Écritures. Et le chrétien doit faire pareil. Le chrétien doit citer les Écritures dans toutes ses actions, dans toutes ses explications des choses de Dieu. Le chrétien doit citer les Écritures. Donc là, c'est le psaume 2. Et il est intéressant de noter, donc verset 25, « Et qui a dit ?» Donc Dieu a dit par la bouche de David, ton serviteur. Donc en fait, quand les psaumes ont été écrits, ce n'est pas David qui parle. C'est Dieu qui parle par la bouche de David. C'est une doctrine importante. C'est qu'en fait, Dieu utilise des hommes pour parler. Parce que des fois, il y en a qui vont émettre des objections quant à la Bible et qui vont dire « Oui, mais par exemple, Moïse... » Les livres de Moïse, c'est la doctrine de Moïse. Non, ce n'est pas la doctrine de Moïse, c'est la doctrine de Dieu qui a utilisé Moïse pour transmettre cette doctrine, cette parole. Les psaumes, ce n'est pas les idées de David, ce sont les idées de Dieu qui a parlé par la bouche de David. Donc, pareil pour nous on peut s'approprier cette chose. Quand nous citons la Bible, ce n'est pas nous qui parlons, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Par contre, si on parle et qu'on ne cite pas la Bible, ça manque, on n'est plus les porte-paroles de Dieu. Voilà. Il faut citer la Bible, et là, dans ce cas-là, on sera directement les porte-paroles de Dieu. Et c'est libérateur, quelque part, parce que du coup, bon, on sait que quand on cite la Bible... C'est pas moi qui parle, donc en fait, j'ai pas à défendre ma doctrine, il n'y a pas de pression sur mes épaules pour défendre ma doctrine, ce n'est pas ma doctrine, c'est la doctrine de Dieu. quand je cite la Bible. Donc c'est très libérateur, c'est très rassurant, c'est la doctrine de Dieu. Ce n'est pas ma doctrine, je n'ai pas à avoir peur, c'est la doctrine de Dieu. Petit rappel, 2 Pierre chapitre 1, versets 20 et 21, verset très, très connu, toujours bon à rappeler. 2 Pierre chapitre 1, versets 20 et 21. Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Donc voilà, la prophétie, l'Écriture, la Bible, ce n'est pas de l'homme, cela vient de Dieu. Et Dieu a parlé par la bouche de ses serviteurs. Donc c'est une citation du psaume 2 que nous voyons ici. Donc si vous voulez bien aller dans le psaume 2, on va regarder. Et en fait, je pense que là, de la même façon que d'abord il rappelle à Dieu que Dieu est le Créateur, c'est comme une sorte de... En fait, il voudrait impliquer que... C'est pas une citation directe, mais presque. Eh bien là, ils font une citation du psaume 2. Ils citent les deux premiers versets, mais on sait ce qui vient après les deux premiers versets. Et en fait, en citant les deux premiers versets, ils appellent, en quelque sorte, ils appellent à la réalisation des versets suivants. On va voir. C'est une citation du psaume numéro 2. Psaume numéro 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines ? Les rois de la terre se sont levés, et les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens, disent-ils, et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui est assis dans les cieux s'en rira, le Seigneur se moquera d'eux. Alors il leur parlera dans sa colère, il les épouvantera dans son courroux. Et moi, dira-t-il, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Maintenant donc, ô roi, ayez de l'intelligence, recevez instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie quand sa colère s'enflammera tout à coup. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc en acte 4, quand les apôtres vont citer les deux premiers versets, je suppose qu'ils ont en tête aussi le reste, et Dieu connaît très bien sa parole, donc Dieu connaît le reste. On cite les deux premiers versets pour appeler à Dieu le fait de... Parce qu'au verset 5, on voit que Dieu dit « Ces hommes-là qui complotent contre mon Christ, eh bien, je les épouvanterai dans ma colère. » Et en fait, Dieu appelle les hommes à la repentance parce que les gens qui veulent rejeter le Christ, qui veulent faire des complots, qui veulent s'assembler ensemble pour imaginer des choses vaines, c'est-à-dire des choses inutiles contre le Christ, eh bien, ces gens-là seront punis à la fin. Donc, c'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur d'eux. Mais au contraire, comme dans le psaume 2, au verset 10, 11 et 12, Dieu appelle ces hommes-là à la repentance. Dieu appelle ces hommes-là à croire en son Fils Jésus-Christ. Donc, de la même façon, nous devons appeler ces gens-là à la repentance, même s'ils nous persécutent, car nous savons que la colère de Dieu demeure sur ces gens-là. Et ici, au psaume 2, on voit bien qu'en fait, au verset 3, ce que disent les gens... Rompons leurs liens, disent-ils, et jetons loin de nous leurs cordes. On voit bien que ce que veut le monde, c'est se débarrasser de ce qu'il considère comme des liens. Tous les commandements de Dieu, la loi de Dieu, la parole de Dieu, le monde considère ça comme des liens, comme des choses qui les empêchent de vivre leur vie. Et ils ne veulent pas ça, ils ne veulent pas vivre selon les lois de la Bible, ils ne veulent pas écouter tout ce que dit Dieu. Et en fait, c'est pour ça que quelque part, les mouvements œcuméniques ont du succès parce que
peu importe quel est leur Dieu,
les fausses religions peuvent s'assembler tant que c'est pour être contre le Christ. Tant que c'est pour rejeter Christ, les fausses religions peuvent s'assembler. C'est pour ça que l'œcuménisme, c'est tout à fait possible entre les musulmans, les catholiques, les bouddhistes, les athées, etc. C'est tout à fait possible parce que finalement, leur objectif, c'est de rejeter Christ. Mais on voit bien au verset 4, « Celui qui est assis dans les cieux s'en rira, le Seigneur se moquera d'eux. » Donc, ils ont beau faire tous les complots qu'ils veulent, toutes les conspirations pour se débarrasser de Christ, pour faire la guerre aux chrétiens, pour empêcher les chrétiens de parler, pour rejeter Christ, ils ont beau faire tous les complots qu'ils veulent, utiliser toute la force qu'ils veulent, le Seigneur se rit d'eux, il s'en rigole, parce que c'est lui qui a le dernier mot. Et donc nous, ça peut nous redonner du cœur au ventre. Le Seigneur les a vaincus à la croix, par sa résurrection. Donc, continuons donc dans Acte 4. Donc voilà, les apôtres vont citer le psaume 2, vont citer le début du psaume 2, mais en fait ça implique qu'on cite tout le psaume. Et en Acte 4, au verset 26, il est dit donc que les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ, et on a vu qu'en psaume 2, il est dit contre le Seigneur et contre son oint. Donc en fait c'est pour dire que Christ c'est la même chose que oint, ça veut dire la même chose, d'accord? Donc c'est la personne qui a été élue de Dieu, c'est la personne qui a été investi par Dieu de tout pouvoir. Voilà. C'est ça, loin, le Christ. C'est la même chose, en fait. Alors, l'interprétation donc, du psaume 2, du coup, le psaume 2 se réalise ici. Le psaume 2 est réalisé. L'interprétation, c'est ça, verset 27, acte 4, 27. En effet, Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël, se sont assemblés contre ton Saint-Fils Jésus, que tu as oint. Donc Dieu a choisi son Fils Jésus, il a oint son Fils Jésus, et Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël. Donc tout le monde en fait, Israël, les gentils, Hérode, Pilate, tout le monde s'assemble contre Jésus-Christ. Et de nos jours, c'est pareil. Le monde peut s'assembler, peut se mettre d'accord pour être contre Jésus-Christ. Malheureusement. Et nous, on doit les appeler à la repentance. Luc, chapitre 23, verset 12, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très moche. Luc 23, verset 12, parce que ils vont tuer Jésus, ils vont le torturer, ils vont l'humilier. Luc 23, verset 12. Alors, verset 11, on va commencer à lire au verset 11. Luc 23, au verset 11, donc pendant le procès du Seigneur Jésus. Luc 23, verset 11. « Mais Hérode, avec les gens de sa garde, le traita avec mépris, et pour se moquer de lui, il le fit vêtir d'un habit éclatant et le renvoya à Pilate. » Donc Hérode traite Jésus avec le pire mépris, ce qui est absolument répugnant. « En ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis, car auparavant, ils étaient ennemis. » Ce verset 12, moi, à chaque fois que je lis ça, je suis dégoûté par ces deux hommes. Parce que les deux, le pire dans les deux, c'est Hérode, mais les deux sont vraiment répugnants. Mais autour de l'humiliation et de l'attaque du Seigneur Jésus, autour de la martyrisation du Seigneur Jésus, autour... Quand ils ont battu le Seigneur Jésus, en fait, c'est ça qui les rassemble. C'est quand même vraiment répugnant. Ce qui rassemble deux ennemis, c'est de s'attaquer au Christ. Et je pense que Pilate était moins pire que Hérode. Il aurait mieux fait de rester ennemi avec Hérode. Et vraiment, c'est absolument répugnant que ces gens-là deviennent amis le même jour qu'ils ont maltraité et torturé le Seigneur Jésus. C'est absolument répugnant. Et le monde peut être comme ça. Sachons-le. Le monde peut être comme ça. Le monde, c'est comme quand il y a une bande de chiens qui s'assemblent autour de quelqu'un pour le martyriser, pour le battre, pour se moquer de lui. On peut avoir ça. On peut avoir toute une bande de Les enfants peuvent faire ça entre eux, parce que les enfants aussi sont cruels. Les hommes peuvent faire ça, s'assembler à plusieurs, devenir amis pour maltraiter quelqu'un. C'est quelque chose que le monde peut faire. Et Hérode et Pilate sont vraiment tombés au plus bas. Ici. En fait, ils sont ensemble dans la chose la plus répugnante qu'on puisse faire. Et c'est l'œcuménisme qui vous ouvre les bras. Donc une interprétation plus large aussi de ce psaume 2, c'est quelque part tout au long de l'histoire, les gens quelque part voilà se sont toujours mis d'accord pour détester les chrétiens. En fait, je veux dire, s'il y a une chose que les fausses religions ont en commun, c'est d'être contre Christ, et elles peuvent se mettre d'accord là-dessus. Et nous, on peut se mettre d'accord entre nous que il n'y a aucune religion qui est vraie, sauf Jésus-Christ, que l'on trouve dans la Bible. Donc nous sommes contre l'œcuménisme. Alors, verset 28, acte 4, verset 28. Pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient décidé d'avance de voir être faites. Donc là, on a un rappel du fait que Dieu savait ce qui allait se passer. Dieu savait à l'avance que ces choses-là devaient être faites. C'est-à-dire que Dieu n'a pas été surpris quand son fils a été rejeté. Dieu n'a pas été choqué de voir qu'on avait maltraité son fils. Mais Dieu savait que c'était le seul moyen et que cela devait se passer comme ça. En acte 2, verset 23, acte 2, verset 23, il est dit la même chose, acte 2, 23, c'est Pierre qui prêche, acte 2, 23, ce Jésus, livré par la volonté déterminée et selon la préscience de Dieu, vous l'avez pris et l'ayant attaché à la croix par les mains des iniques, vous l'avez fait mourir. Donc, ce Jésus livré par la volonté déterminée et selon la préscience de Dieu, c'est-à-dire Dieu savait à l'avance. La préscience de Dieu, ça veut dire que Dieu savait à l'avance que ce serait le moyen nécessaire pour sauver les hommes. Acte 2, 24. Mais Dieu l'a ressuscité, ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Voilà. On a beau s'acharner contre le Seigneur Jésus, il est ressuscité, donc on ne peut plus rien faire contre lui. Ni contre nous, d'ailleurs. Voilà, donc l'œcuménisme contre Jésus, ça ne marche pas. Et donc Dieu savait d'avance ce qui allait se passer. Mais alors, pourquoi des hommes idiots comme Hérode et Pilate vont s'assembler contre Jésus? Eh bien, c'est ça, c'est l'idiotie des hommes qui vont faire des choses vaines. Et Dieu peut utiliser des hommes. C'est pas que Dieu a choisi des hommes pour être damnés, mais il y a certains hommes qui sont méchants, qui veulent faire le mal, donc Dieu va dire, ok, tu veux faire le mal, tu veux être méchant, eh bien je vais t'utiliser, tu vas agir comme un méchant, je vais t'utiliser, et tu vas faire ce que j'ai prévu qui devait être fait. Ce n'est pas que Dieu a choisi d'avance ces hommes en particulier pour être damnés, pour faire ces choses horribles, mais ces hommes étaient prêts à faire ces choses horribles, ces hommes voulaient faire des choses horribles, donc Dieu a utilisé ces hommes pour faire ce qui devait être fait, comme par exemple Judas, dans Marc chapitre 14, verset 21, Marc chapitre 14, verset 21, « Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va selon ce qui a été écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il eût mieux valu pour cet homme de n'être jamais né. » Donc, Jésus-Christ doit être trahi. C'est ce qui est écrit de lui. Il faut donc que quelqu'un le trahisse. Mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il y avait un homme méchant, un homme vil, qui voulait trahir Jésus. Dieu l'a donc utilisé pour accomplir les Écritures qui devaient être accomplies. Et c'est un petit peu similaire donc pour Hérode et Pilate. Donc on a aussi ce concept en Apocalypse chapitre 13 verset 8, le concept du fait que Dieu savait d'avance ce qui allait se produire. Dieu savait de toute éternité que Jésus devait mourir pour les hommes. Dieu n'a pas été surpris par ces événements. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, donc l'Antéchrist, la bête de la fin des temps, et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la création du monde. Donc, Jésus est venu il y a 2000 ans. Jésus n'est pas venu au commencement de la création. Et pourtant, la Bible nous dit que Jésus a été immolé dès la création du monde. Parce que de toute éternité, il était prévu que Jésus mourrait sur la croix pour les hommes. 1 Pierre 1, versets 18 à 20. 1 Pierre 1, versets 18 à 20. Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables comme l'argent et l'or, mais par un précieux sang comme d'un agneau sans défaut et sans tache, Christ, destiné déjà avant la création du monde, est manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Donc Christ, destiné déjà avant la création du monde. Nous voyons ici la préscience de Dieu. Dieu savait à l'avance. Et c'est pour ça que Dieu se permet de dire, en Éphésiens chapitre 1, verset 4, en Éphésiens chapitre 1, verset 4, un passage qui parfois pose problème et qui est parfois interprété par les calvinistes qui disent que Dieu a choisi les personnes. Éphésiens chapitre 1, verset 4, ce qui est faux, Dieu n'a pas choisi les personnes. Mais Dieu se permet de dire, Éphésiens chapitre 1, verset 4, selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, par la charité. Donc, ce n'est pas que Dieu a choisi les êtres humains pour être sauvés avant la création du monde, mais Dieu, par contre, a choisi Jésus pour être le Christ, pour être le Messie, avant la fondation du monde, et il a choisi que ceux qui rentreraient en Jésus, ceux qui placeraient leur foi en Jésus, seraient sauvés. Serait destiné à être sauvé. Il n'a pas choisi qui, mais il a choisi comment. Et il se permet de dire qu'il nous a choisis en Jésus avant la fondation du monde, parce que Dieu avait prévu Christ avant la fondation du monde. C'est pour ça qu'il peut se permettre de dire que, avant la fondation du monde, il savait que les croyants en Christ seraient sauvés. Il avait prévu de toute éternité le moyen du salut. Acte 4, continuons à lire au verset 29. Et maintenant, Seigneur, considère leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine hardiesse. Donc maintenant, on focalise sur l'objectif principal de cette prière, finalement l'objectif principal d'une église. On refocalise là-dessus. Et on demande au Seigneur, donc de considérer leurs menaces, bien sûr, pour que le Seigneur nous protège, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine hardiesse, parce que l'objectif, finalement, notre but principal sur lequel il ne faut pas perdre de vue notre objectif principal, qui est d'annoncer sa parole avec une pleine hardiesse, c'est-à-dire de prêcher l'Évangile à toute créature. C'est ça l'objectif de l'Église, il ne faut pas le perdre de vue. En étendant ta main, donc verset 30, en étendant ta main, afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des merveilles par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Donc on demande des miracles à Dieu pour confirmer sa parole. Verset 31, lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Donc, nous voyons bien ici que la prière est pleinement efficace. Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Donc, ils sont à l'église, ils sont assemblés, ils prient ensemble, et Dieu se manifeste. Il fait trembler l'église, le mur de l'église. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Dans la Bible, on voit les deux manifestations principales du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, c'est soit pour combattre une bataille, ça c'est dans l'Ancien Testament, soit pour annoncer la parole de Dieu, ça c'est dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, c'est soit pour combattre une bataille juste de Dieu, soit pour annoncer la parole de Dieu. De nos jours, ce sera pour annoncer la parole de Dieu. Ce sera pour combattre le combat de la foi. Et donc nous voyons l'efficacité de la prière. C'est pour ça qu'il faut prier avant d'évangéliser, avant même de prêcher un message. C'est pour ça que je prie, j'essaye d'y penser maintenant, régulièrement, de prier avant de prêcher les messages, pour que Dieu me donne le Saint-Esprit. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, il n'y a pas de puissance. Sinon, il n'y a pas d'efficacité. Voilà. Et on note ici donc que le fait d'être rempli du Saint-Esprit entraîne le fait d'annoncer la parole de Dieu avec hardiesse. Ce n'est pas, comme dans certaines églises pentecôtistes ou charismatiques, etc., certains d'entre vous peuvent le croire, enfin, où on a tous vu ça en vidéo, des fois, où quand les gens se disent remplis du Saint-Esprit, ils se roulent par terre, ils tremblent, ils baragouinent des choses incompréhensibles. Ce n'est pas ça. Quand on est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas de se rouler par terre et d'agir de façon incohérente, mais c'est d'annoncer la parole de Dieu avec hardiesse, avec une pleine hardiesse. La parole de Dieu, ce n'est pas des choses incompréhensibles, ce n'est pas du baragouinage incompréhensible, ce sont des phrases, des chapitres, des paragraphes construits, logiques et sensés. Donc, le Seigneur a pleinement répondu à la prière de l'Église. Et donc, en deuxième partie, donc maintenant on va voir la deuxième partie qui va être un petit peu plus courte. La deuxième partie, donc, c'est comment... Parce que je rappelle le titre du message. Le titre du message, c'est la cohésion de l'Église, la cohésion de la communauté chrétienne face aux épreuves. Donc, on a vu l'épreuve des menaces. Donc, la réponse face à ça, c'est la prière en commun, d'un commun accord. Et un autre type d'épreuve qui peut nous arriver, c'est les épreuves de type financière, les épreuves de pauvreté. Donc en point numéro 2, on va voir ces épreuves-là, et on va voir notre cohésion face aux épreuves de pauvreté, aux épreuves financières. Donc si vous voulez revenir dans Hébreux chapitre 10, qu'on avait vu tout à l'heure, Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, verset 32. Donc rappel, on a lu ça tout à l'heure. Or, souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat de souffrance, quand, d'un côté, vous avez été exposés publiquement à des opprobres et des persécutions, et que, de l'autre, vous avez pris part aux maux de ceux qui étaient ainsi traités. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Verset 34. Car vous avez aussi compati à mes liens, et vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous, dans les cieux, des biens plus excellents et qui sont permanents, c'est-à-dire éternels. Verset 35, n'abandonnez donc pas votre confiance qui aura une grande rémunération. Donc ce qui est dit ici, c'est le principe que Jésus nous enseigne quand il nous dit de nous amasser des trésors dans le ciel, des trésors permanents dans le ciel. C'est que ces gens-là, qui sont mentionnés donc dans l'Épître aux Hébreux, ils ont accueilli avec joie l'enlèvement de leurs biens, c'est-à-dire qu'on leur a volé leur possession parce qu'ils sont chrétiens. Ça peut être par exemple quelqu'un qui perd son emploi parce qu'il est chrétien, ça peut être quelqu'un qui se fait expulser de sa maison parce qu'il est chrétien, qui se fait voler ses biens parce qu'il est chrétien. Ces choses-là peuvent arriver. Donc, comment donc on réagit dans ces cas-là? On partage les afflictions de ces personnes. En acte 4, verset 32, donc c'est un petit peu ce qui va être enseigné ici en acte 4. Acte 4, verset 32. Or, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc on le revoit, le fait qu'ils sont en accord, n'était qu'un cœur et qu'une âme, et personne ne disait que rien de ce qu'il possédait fût à lui, mais toute chose était commune entre eux. Donc là, je voudrais noter quand même que ce sont les gens qui disent que rien de ce qu'il possédait fut à lui. C'est pas qu'on leur impose, ok? C'est pas du communisme. Faut pas voir ça comme du communisme où ce serait imposé que tous les, ou comme une secte où il serait imposé que tous les frères et sœurs apportent tout leur argent et mettent tout leur argent à la disposition de l'Église. Absolument pas. Ce sont les gens, parce que leur cœur leur dit de faire ceci, qui disent que rien de ce qu'ils possédaient fut à lui. Car en vérité, les choses sont à eux. En vérité, les choses sont en leur pouvoir. Évidemment, les choses appartiennent à Dieu. Tous nos biens appartiennent à Dieu, en définitive. Mais, quand nous possédons des biens, ces biens sont en notre pouvoir pour en faire usage de la façon dont nous le jugeons nécessaire. Chacun d'entre nous, nous avons des biens, et c'est à nous de juger de la façon dont nous pouvons utiliser ces biens. C'est pour ça qu'ici, on ne force pas les dons, on ne demande pas les dons, on ne s'attend même pas forcément à des dons. Les dons doivent être faits de façon volontaire. Si quelqu'un ne veut pas donner, il ne donne pas. On n'impose absolument pas les dons dans une église chrétienne. Il n'y a absolument rien d'imposé. Ce qui est imposé, c'est les impôts. Ça, c'est imposé. Pas les dons à l'église. Personne ne disait que rien de ce qu'ils possédaient fut à lui. Parce que c'est à eux, mais ils disaient, voilà, c'est à moi, mais je le mets en commun. D'ailleurs, c'est ça la puissance de faire un don. La puissance de faire un don, c'est quand la chose vous appartient, mais vous le donnez. Si on vous le prend de force, comme par exemple les impôts ou la sécurité sociale, ce n'est plus un don. Si c'est l'État qui vous le prend, c'est un impôt. Mais ce n'est plus un don. Cela enlève la bénédiction de donner. La vraie bénédiction de donner, c'est quand la chose est à vous et que vous en faites grâce à quelqu'un, que vous en faites cadeau à quelqu'un. C'est ça la vraie bénédiction de donner. Et là, on voit que ces gens-là sont remplis d'amour les uns pour les autres, donc ils considèrent que toutes choses doivent être communes entre eux, par leur bonne volonté, hein, pas parce qu'on les oblige. Et verset 33, « Et les apôtres rendent des témoignages avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. » Voilà. Verset 34, « Car il n'y avait aucun indigent parmi eux, parce que tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus. » Donc, voilà, l'idée, c'est qu'il n'y ait aucun indigent, qu'il n'y ait personne dans notre milieu chrétien, dans notre Église, qui souffre la misère. C'est ça, l'objectif. Si vous voulez aller dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, 1 Jean chapitre 3, verset 16, voilà, l'idée, c'est pas de satisfaire les désirs, les convoitises des uns et des autres. Non, l'idée, c'est que si vous voyez quelqu'un qui est dans la misère, qui n'a pas le minimum vital, c'est d'aider ce frère ou cette sœur. 1 Jean chapitre 3, verset 16. « À ceux-ci, nous avons connu la charité de Dieu, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Or, celui qui aurait des biens de ce monde, et qui, voyant son frère dans le besoin, lui fermerait ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui ? Mes petits enfants, n'aimons pas de paroles ni de la langue, mais en action et en vérité. » Donc, si vous voyez votre frère dans le besoin, si vous voyez votre frère qui n'a ni nourriture, ni vêtements, ni habitation, eh bien, l'amour de Dieu devrait vous faire aider cette personne, pour qu'il n'y ait pas d'indigents parmi nous, de personnes dans le besoin. Remarque, on aide ceux qui sont dans le besoin, pas les paresseux. On n'aide pas les paresseux. Petit rappel, 2 Thessaloniciens chapitre 3, décidément. 2 Thessaloniciens chapitre 3, c'est un rappel. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Car aussi, lorsque nous étions chez vous, nous vous déclarions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. Donc s'il y a quelqu'un qui est rebelle et qui ne veut pas travailler parce qu'il est paresseux, il ne doit pas non plus manger, il ne devrait pas non plus manger. Ben oui, parce que le travail, c'est difficile, c'est de la souffrance, on travaille tous, donc on sait ce que c'est. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il n'a pas besoin d'aide financière. Il a besoin d'un bon coup de pied aux fesses pour se mettre au travail. C'est ça dont cette personne a besoin. Voilà. Faut bien équilibrer un peu les choses dans la doctrine biblique. C'est qu'il ne doit pas y avoir d'indigent, mais si quelqu'un ne veut pas travailler et qu'il est indigent, il n'a pas besoin qu'on l'aide avec de l'argent, il a besoin qu'on l'aide à se motiver et à travailler, à trouver du travail. L'aide, c'est pour les nécessiteux et pas pour les paresseux. Verset 35, il le mettait aux pieds des apôtres et on le distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Selon qu'il en avait besoin, pas selon qu'il en avait envie. C'est pas non plus un coffre commun où tout le monde peut se servir selon qu'il en a envie. C'est un coffre, enfin ça peut être un coffre, nous on a une petite boîte, voilà, bref, ou un compte en banque, peu importe. C'est un coffre pour ceux qui en ont besoin, pas pour se servir pour ceux qui en ont envie. Donc ça doit, ces choses-là doivent être distribuées aussi avec ordre. On ne va pas distribuer à n'importe qui non plus. Donc l'objectif de tout ça, 2 Corinthiens chapitre 8. Donc, l'objectif de ce partage, l'objectif de ces aumônes qu'on va faire aux frères et sœurs, de ces aides qu'on va apporter aux frères et sœurs, des aides financières, l'objectif de tout ça, c'est qu'il n'y ait pas de nécessiteux parmi nous, c'est qu'il n'y ait pas de gens qui soient dans la misère parmi nous. Bon, dans la société française, ça va, on est riche, mais dans toutes les autres époques, ces choses-là ont pu être très très nécessaires pour certaines personnes qui étaient dans la misère et il aurait été du devoir des frères et des sœurs de les aider. Et ça pourrait aussi nous arriver à nous. Donc l'objectif, c'est 2 Corinthiens chapitre 8, commençant au verset 11. 2 Corinthiens 8, verset 11. « Achevez donc maintenant de le faire, afin que comme il y a eu la promptitude de la volonté, il y ait aussi l'accomplissement selon vos moyens. » Donc Dieu ne va pas vous demander de donner plus que ce que vous avez. « Car si la promptitude de la volonté existe, on est agréable à Dieu selon ce qu'on a, et non selon ce qu'on n'a pas. » Encore une fois, Dieu ne va pas vous demander de donner les choses que vous n'avez pas. « En effet, pour que les autres soient soulagés, il ne faut pas que vous soyez surchargés. Au contraire, qu'il y ait égalité. » Donc le but, ce n'est pas de se saigner à blanc pour aider les autres. Ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de se mettre soi-même en difficulté financière pour aider les autres. Ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'il y ait égalité, verset 14, « que votre abondance, et Dieu sait que plusieurs d'entre nous sont dans l'abondance, ce n'est pas très difficile en France d'être dans l'abondance, verset 14, « que votre abondance supplée maintenant à leur indigence, afin que leur abondance supplée aussi à votre indigence, au cas où, hein, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, donc pour accomplir cette écriture, selon qu'il est écrit, celui qui recueillait beaucoup n'en avait pas plus, et celui qui recueillait peu n'en avait pas moins. » En fait, ça c'est une citation de l'Ancien Testament qui parlait de la manne. La manne, celui qui récoltait beaucoup de manne, en fait, le trop-plein qu'il avait disparaissait. Et celui qui en récoltait moins, eh ben, il se trouvait qu'il en avait suffisamment. Donc, pour respecter ce principe de la manne qui avait été enseigné par Dieu, il faut qu'on essaye de faire en sorte entre nous qu'il n'y ait aucun indigent. Et si quelqu'un est dans l'abondance, eh bien, c'est son rôle, c'est son devoir d'aider cette personne. Voilà, pour que son abondance supplée à l'indigence de l'autre personne. Toujours basé sur la bonne volonté de la personne qui donne. Et pour finir, 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Et c'est quand même une... D'ailleurs, le Seigneur Jésus a dit, il est plus béni de donner que de recevoir. C'est plus plaisant de donner. C'est extraordinaire. Quand on peut bénir quelqu'un, quand on peut apporter cette grâce à quelqu'un, quelque part, on partage un peu la nature de Dieu. Quand on fait un pur don à quelqu'un, un pur cadeau, même que notre main droite ne sait pas ce que notre main gauche a fait, c'est en quelque part on partage la nature de Dieu. Enfin, on agit comme lui parce que Dieu a fait ça envers nous en envoyant son Fils Jésus. Donc, si nous, on donne à quelqu'un de façon purement de notre pure bonne volonté, de notre cœur, on partage la nature de Dieu. On partage ses actions. On agit comme lui en la matière. C'est extraordinaire, c'est un privilège aussi. C'est un privilège de donner. 1 Timothée chapitre 6, verset 17, recommande aux riches du présent siècle de n'être point orgueilleux. Donc c'est pour ça que je vous dis ces choses-là, hein, parce que la Bible dit « recommande aux riches ». Donc c'est pour ça qu'on parle, si certains d'entre nous sont riches, eh ben on leur recommande de faire ça. C'est pour ça qu'on prêche ces choses-là. « Recommande aux riches du présent siècle de n'être point orgueilleux, de ne point mettre leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu vivant qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. De faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, prompt à donner, faisant part de leur bien, s'amassant ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un bon fond afin d'obtenir la vie éternelle. » C'est pas pour acheter la vie éternelle, de toute évidence, mais c'est pour se constituer des trésors dans le ciel. C'est intéressant l'expression qui est utilisée ici, au verset 19. S'amassant un trésor placé sur un bon fond. Vous avez entendu parler des fonds de placement, des fonds financiers, etc. Bon, vous pouvez mettre votre argent là-dedans, mais c'est nul comparé au fond de placement du Seigneur Jésus. Le fonds de placement céleste, c'est un bon fonds de placement. C'est le bon fonds de placement. Voilà. Et au verset 18, donc, il nous dit de recommande aux riches, au verset 18, de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, prompt à donner, faisant part de leur bien. Évidemment, on ne sera pas là en face du riche en lui disant « Donne-nous ton argent !» C'est pas ça l'idée. Mais si vous avez de l'argent, si vous êtes riche, si vous êtes abondant, eh bien, Dieu vous recommande d'être prompt à donner, faisant part de leur bien, partageant vos biens, leurs biens. Voilà. En conclusion, donc la communauté chrétienne, donc on voit dans ce passage que l'Église locale doit être en cohésion, doit faire front commun face aux épreuves. Des épreuves de type menace, donc pour faire face à ces épreuves-là, c'est la prière qui est notre première arme spirituelle. C'est la prière vers laquelle il faut se tourner. Enfin, il faut se tourner vers Dieu par la prière, en premier lieu. Et deuxième point, donc deuxième type d'épreuves que nous pouvons subir dans une église, c'est les épreuves de type financière. Et la façon d'y répondre, c'est le partage. Le partage qui vient d'une bonne volonté et d'un bon cœur. Merci à tous, merci pour votre patience et que Dieu vous bénisse pour la suite.